Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission littérature. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à rattrapage des sorties Panini du second semestre. Et nous allons traiter notamment de l'adaptation de Solo, Star Wars Story, et de la mini-série Cadet Impérial. Donc je suis Loïc, et ce soir je suis accompagné de Francis. Bonjour Francis.
Bonsoir Loïc.
Voilà, bah écoute Francis, nous revoilà pour une émission littérature à deux. Donc on va faire comme la tradition le veut, tu vas nous parler de tes petites geekeries Star Wars du moment.
Dernièrement, écoute, on a eu quand même beaucoup de stock entre la série Mandalorian, la sortie de Fallen Order là, que j'ai complétée hier soir. Sinon, de la lecture, évidemment, comme d'habitude, beaucoup de BD. On a terminé la série Star Wars aux États-Unis.
Le 75 est sorti cette semaine. Ouais. Et Afra est en passe de finir bientôt également, je crois.
Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester un Afra, un Target Vader. Et c'est pas mal ça, je pense. Et après, ça va être, comment qu'ils l'ont appelé, là, le méga numéro de 50 pages, là, qui va venir ramasser le tout.
Oui, qui fait un peu le lien de tous les personnages et qui va les redispatcher.
Mm-hmm. Et il reste à voir qui va survivre, parce que, bon, pour le Big Three puis Afra, on sait déjà que ce sera le cas, mais pour Valance de Target Vader, ça reste à voir. Donc... bien hâte de voir ça. Sinon, c'est pas mal ça. Donc, beaucoup de Star Wars en direct, en fait, dernièrement.
Ah bah oui.
Peu de temps pour le reste.
C'est ça. Bah écoute, pour ma part aussi, beaucoup de lectures. J'essaie de rattraper les romans sur lesquels je suis en retard. Mandalorian, évidemment, avec les enfants, c'est un plaisir, un peu, avec toutes les semaines, ce nouvel épisode. Les émissions de Star Wars en direct que je n'enregistre pas mais que j'écoute, donc ça fait du gros geekery Star Wars. Et alors, moi je n'ai pas donc la chance d'avoir une console nouvelle génération avec le jeu Fallen Order. Par contre, j'ai récemment, comme je l'avais fait sur Battlefront, regardé les youtubeurs qui font le montage en fait des cinématiques avec quelques phases de jeu. Pour avoir une idée de l'histoire qui se déroule dans le jeu et de ce qui se passe pour les personnages. Donc je dois dire que j'ai été agréablement surpris parce que j'ai trouvé que l'histoire était assez prenante. D'ailleurs j'ai laissé, je vais pas aller plus loin, je vais laisser mes commentaires. Je vais l'annoncer après, mais il y aura une émission qui va être bientôt enregistrée et les commentaires sont. Je les ai transmis à l'équipe, donc qui pourront éventuellement les partager s'ils le trouvent pertinent. Bah, évidemment, ça sera pas sur les phases de jeu, parce que moi je n'ai pas joué, mais ça sera sur l'histoire, la partie graphique, et j'ai noté des petits problèmes dans les textures, mais parce qu'on les voit à travers les cinématiques.
Mmh.
Et puis à l'instant, en fait, je te rejoins, et j'étais également en train d'enregistrer une autre émission que je garde un peu secrète pour le moment et qui devrait plaire, j'espère, à un certain nombre qui me la réclament depuis longtemps.
J'espère ça.
Voilà, donc voilà tout un peu pour mes geekeries Star Wars. Donc du coup, ça me fait tout ça nous fait parler de nos récentes émissions parce que comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de nouveautés Star Wars en direct en ce moment. Vous a, d'ailleurs, je t'ai écouté avec Danny sur la dernière émission littérature où vous avez parlé tous les deux de Resistance Reborn. Mm-hmm. Vous avez chroniqué le livre qui reçoit quand même, on peut le dire, un accueil plutôt chaleureux.
Ouais, effectivement.
Donc j'ai déclenché mon alerte Bloodline, puisque je rappelle que je n'avais pas trop apprécié Bloodline malgré les engouements, donc je suis un peu sur la réserve. Une autre émission également, l'émission série numéro 6, consacrée au troisième épisode de Mandalorian, qui a été débriefé par Sylvain, Thomas, Céline et Danny. Donc évidemment, attention, ce sont des émissions spoiler également. Donc si vous l'écoutez et que vous n'êtes pas à jour, que vous ne souhaitez pas en savoir plus, vous pouvez écouter que la première partie. Et puis donc une émission qui est parue récemment, c'est l'émission 46 de Clone Wars, où Faye, David et moi-même discutons de l'arc de Mortis. J'ai le sourire en prononçant le nom de l'émission, parce que c'est une émission qu'on a pris beaucoup de plaisir à enregistrer et pour lesquelles l'équipe nous a fait beaucoup de retours positifs. Donc j'espère, pour l'instant on n'a pas de retour de la part de nos auditeurs, mais j'espère que cette émission leur a plu également. Voilà, bah, on rappelle également que nous avons rejoint récemment Discord et que vous pouvez nous retrouver sur le serveur associé, où vous pouvez participer à des discussions un peu sur tous les sujets de Star Wars et également écouter nos lives. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous diriger vers notre boutique à l'adresse starwars.direct/boutique. Alors avant d'attaquer notre sujet, nous allons remercier comme d'habitude les partenaires, à savoir siteclan.net, mintinbox.net, starwarsthenet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, Génération Star Wars et Science Fiction. Et sur ce, on saute en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark!
Alright, stand by!
Voilà, de retour donc dans l'espace normal pour attaquer notre notre premier sujet avant d'attaquer les critiques à proprement parler. On va faire un petit point. Alors on a pris cette habitude, hein, Francis, déjà la dernière fois. On fait un petit point sur les parutions récentes, donc les petites news, le planning, est-ce qu'il a été mis à jour pour Pocket, est-ce qu'il a été mis à jour pour Panini, et puis rappeler aux gens qui nous écoutent que bah, on n'est pas en manque de littérature Star Wars. Donc il y a un livre qui devait paraître au mois de novembre et qui a été repoussé, qui est un roman jeune adulte consacré au voyage vers l'ascension de Skywalker. Francis, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce roman?
Ouais, ben dans le fond, c'est pas en novembre, je te corrige, c'était le 5 décembre qui devait paraître et c'est repoussé d'une semaine au 7.
D'une semaine.
Pocket a tout simplement dit qu'il s'excuse et que c'est pour une raison hors de leur contrôle. Donc on n'a aucun détail là, à savoir si c'est une question d'imprimerie ou de je sais pas de quoi là. Mais tout ça pour dire qu'on va devoir attendre le 12 décembre. Donc, ça fait quand même passer le délai très raisonnable quand même, là, de 3 semaines à 4 semaines entre la parution aux États-Unis en version originale et la parution française. Donc, à 4 semaines de délai, je trouve que c'est raisonnable. C'est pas
mal. Alors, moi, j'ai un petit élément de réponse qui pourrait expliquer éventuellement. C'est qu'il est prévu pour le 5 décembre en France une grève générale. Et évidemment, je pense que les transporteurs... Alors, bon, il devait sortir le jour-là, donc on peut penser que ça peut être acheminé avant. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un impact au niveau des transporteurs à ce niveau-là qui ne pourrait peut-être pas assurer les livraisons en début parce que bah, avec ce jour de grève, tout va être un petit peu bouleversé. Mm-hmm. Peut-être. Alors, évidemment, on n'a pas d'infos. Hein, c'est vraiment une spéculation pure. Comme en plus, toi, Francis, tu es de l'autre côté de l'Atlantique, tu n'as pas forcément ces...
effectivement, on a nos propres conflits de travail qui causent beaucoup de problèmes ces temps-ci, mais pas chez les transporteurs.
Mais n'est pas celle-là, voilà. Donc voilà, non, c'est vraiment une grève généralisée, donc même des sociétés privées vont potentiellement faire grève.
Mm-hmm.
Donc voilà, donc bon, il paraîtra toujours avant l'ascension de Skywalker, ce qui est quand même relativement agréable, pour pas trop souligner.
Oui, puis c'est un jeunesse, comme tu dis, mais tu sais, le oui. Young adult, comme ils disent aux États-Unis, donc un format qui vise plus les adolescents, peut-être. Donc, oui. Mais je me souviens de certaines entrevues de certains auteurs qui disaient que le format young adult était tout simplement au niveau du thème. Donc, faut pas y voir nécessairement quelque chose de... Tu sais, on a eu des young adults, là, en français, qui dépassaient les 500 pages.
Ah, largement. Si je me souviens bien. Et qui étaient très plus intéressants que des romans canons destinés aux adultes.
Mm-hmm. Oui, tu sais, je pense à Étoile perdue, The Star.
Ah, bien sûr.
Il y a Leia, Princess of Alderaan, qui n'a pas encore été traduit, là, mais qui est excellent. Donc, c'est ça, reste à voir. J'ai lu quelques critiques jusqu'ici. Là. C'est pas aussi l'unanimité, on va dire, qu'avec Resistance Reborn. Mais ça m'intéresse quand même beaucoup. Et le concept de l'histoire, là, le thème, je le trouve un petit peu plus original que ce qu'on a souvent. Donc je me dis ça va faire changement dans le canon, ce type d'histoire-là, on ne l'avait pas vraiment encore. Donc j'ai quand même bien hâte de lire ça.
Bon, ça pourra faire que du bien à la diversité de ce qui est proposé. Voilà, on peut souvent cracher un peu sur le nouveau canon, mais il y a aussi quand même il y a une belle proposition très diverse.
Mm-hmm. Oui, effectivement.
Donc on continue rapidement sur le planning Pocket. En janvier, moi j'ai découvert ça là aujourd'hui, et en mars, il y a 3 romans légendes, voilà, donc des réimpressions ou des inédits. En janvier, il y aura Choix décisif et Le destin des Jedi, et en mars, Chevalier errant. Et alors j'étais assez surpris je pense que ça m'avait pas marqué les fois d'avant, mais vu tous les romans Star Wars qui sont parus en version originale et ceux qu'on a eu chez nous, c'est vrai que c'est un peu dommage de rater des positionnements de sortie où on aurait pu rattraper un peu le retard sur ce qui avait été fait ou placer des romans un peu moins intéressants comme le recueil sur les 40 ans de Star Wars, etc. Mm-hmm. Bon voilà, Pocket fait toujours le choix d'avoir une proposition légende pour ceux qui découvriraient aussi que ça existe, hein, tout simplement.
Ouais, c'est vraiment un retour, là, parce qu'il y a quand même pas si longtemps, ça avait été annoncé que c'était terminé, les légendes. Même du côté américain. Hein. Donc, on ne sait pas trop le pourquoi. En France, ça peut recommencer. Mais, écoute, tant mieux pour les fans des légendes. Moi aussi, quand ça a été annoncé, je pense que c'était vers la fin de l'été, là, peut-être en septembre, je me disais, bon, ça vient prendre la place d'œuvres canon qui sont en retard, mais en tout cas pas en termes de rythme, parce que le calendrier Pocket reste quand même le même.
Voilà, tous les deux mois on a notre roman de l'univers canon.
C'est ça, exactement. Donc bon, c'est ça. Fait que c'est comme un petit bonbon donné là, à ceux qui veulent toujours compléter les légendes.
C'est ça. Et pour ceux qui voudraient donc compléter le canon, en février, on rappelle la sortie d'Alphabet Squadron que vous avez chroniqué et dont les avis, dont toi, je crois, tu avais bien apprécié.
Moi, écoute, c'est pas que j'ai bien apprécié, c'est que j'ai adoré. Donc, voilà. Du côté de Jeff, il avait beaucoup moins aimé. Et tu vois, plus récemment, il y a David de votre côté de l'Atlantique qui nous a donné un retour excellent lui aussi. Ouais.
Voilà, donc ça, je suis assez. Celui-là, j'ai une attente pour celui-là. J'ai hâte de le, j'ai hâte de le lire. Et puis bon, on finit toujours en avril. Hein, on l'a déjà plusieurs fois évoqué, mais toujours Ahsoka. Donc celui-là, évidemment, on l'attend énormément.
Ouais, c'est celui-là. Par contre, en termes de critiques à l'époque, c'est pas celui qui avait eu les meilleures critiques. Mais le thème, hein, tu sais, le personnage aussi adoré d'Ahsoka, etc.
Et puis bon, maintenant, on l'attend en traduction française depuis longtemps, donc il y a une attente, vraie.
Ouais, c'est qu'il y avait eu la petite saga, il était censé sortir et ça a été annulé sans prévenir, là, et les gens ont dû attendre 3 ou 4 semaines avant d'avoir des réponses de chez Pocket. Mais c'est l'époque, justement, où Pocket a mis la hache dans PKJ. Parce c'est un livre qui devait sortir en PKJ. Et bref, c'est ce qui, à mon avis, a causé le grand retard. Là. Mais c'est ça, j'ai quand même bien hâte qu'il soit disponible. Je trouve que c'est un trou un peu dans le canon là, francophone qui ne l'aient pas. Et bon, ben là, en avril, ça va fitter aussi avec le retour de The Clone Wars. Donc, d'un point de vue agenda, ça tombe bien.
Ouais, ça tombe bien, tout à fait. Et on, alors maintenant on va passer à Panini. Donc avec les, on rappelle donc à tous ceux qui nous écoutent et qui sont fans de littérature, hein, les dernières, les sorties prévues. Donc pour le mois de décembre, il y a Allégeance, c'est ça, si Francis, je dis pas de bêtises.
Oui, effectivement, Allégeance, c'est une mini-série que plusieurs connaissent pas parce que ça a passé un peu sous le radar. C'est vraiment juste 4 épisodes très très rapides sur ce qui se passe du côté de la Résistance entre le 8 et le 9. Donc, après le roman Resistance Reborn là, qu'on parlait tantôt. Et c'est déjà terminé aux États-Unis. Ça a été publié, tu sais, souvent les séries, ça va être au mois. Ou en tout cas, sur un intervalle plus long. Là, ça a été à coup de semaine. Ça a vraiment été rapide. Donc, c'est ce qui permet probablement à Panini de le sortir avant même la sortie du film. Parce que c'est terminé, je pense, il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines en anglais.
Je crois que c'était 15 jours, ouais. Mm. Mais du coup, on peut vraiment voilà, saluer cet effort. Là, ça fait 2 parutions qui sont autour de l'ascension de Skywalker et qui vont sortir avant le film. Qui vont être disponibles à la sortie du film pour ceux qui voudraient aller plus loin. Mm-hmm. Ouais, je trouve que c'est rare. C'est rare en France, donc il faut vraiment le mentionner. C'est intéressant.
Mm. Ouais, on voit qu'il y a un effort, de fait, clairement.
C'est, exactement. Exactement. En janvier, donc, on aura le volume consacré aux vilains de l'ère de la Rébellion. Mm-hmm. Et en février, pas moins de 2 volumes. On commence l'ère de la Résistance avec le volume sur les héros, et puis donc la mini-série TIE Fighter, qui elle est parallèle plus ou moins à Alphabet Squadron, qui paraît également en février.
Ben ça aussi, honnêtement, si c'est un effort, je le salue parce que c'est vraiment le fun qu'on ait les deux en même temps, parce que c'est vraiment deux. C'est pas aussi cross-média qu'on aurait pu le croire à l'annonce des projets là, il y a un an, mais n'empêche qu'il y a un certain lien entre la série de BD TIE Fighter et la trilogie de livres Alphabet Squadron. Donc le fait qu'en français ça sorte le même mois, écoute, si c'est un hasard, c'est un très drôle et un très heureux hasard, et si c'est planifié que les deux maisons se sont parlé, ben je salue l'effort, c'est le genre de choses que j'espère qu'il va se reproduire aussi à l'avenir.
Eh bien justement, il me semble, encore une fois, sous réserve que je n'ai pas rêvé les informations, mais quelques semaines, lu une interview de Lucille Gallio, ou à moins que c'était d'Aurélien Vives, de Panini, je ne sais plus, qui disait qu'ils avaient, qu'ils s'étaient coordonnés. Pour mettre en lien ces deux parutions. Sous réserve, évidemment, que je n'ai pas de mauvais souvenirs de quelque chose que j'ai pu lire ou d'une rumeur extrapolée. Voilà.
Ben, très bonne chose dans ce cas-là, et ça va pardonner Panini de nous coûter si cher dernièrement.
C'est ça.
Donc là, avec la série, les 3 séries de l'ère 2, là, République, Rébellion et Résistance, à coup de 2 albums par mois, là, ça fait mal au portefeuille.
Ça fait mal au portefeuille, mais en même temps, on aura vite fini cette série qui aurait pu s'étaler sur l'année complète, ce qui n'aurait pas forcément été le plus judicieux.
Effectivement.
Et puis, alors, une petite news qu'on n'a pas pu traiter parce qu'on n'a pas fait d'émission depuis et qui n'a pas été reprise dans les autres émissions ou légèrement survolée. Ce fut l'annonce par Panini également du relaunch en mois de janvier du périodique Star Wars, donc celui qui, on dirait la version kiosque, comme on dirait habituellement. Donc c'est une annonce qui a fait pas mal de bruit dans les amateurs de littérature VF, parce que on va passer d'un format kiosque à un format softcover, comme ils l'ont fait pour Marvel l'année dernière, je crois. Avec des petites nouveautés. Donc, le rythme restera toujours mensuel pour ce magazine. La pagination, par contre, passera de 96 à 112 pages, ce qui permettra de proposer 5 épisodes par mois, ou des fois 4 épisodes et demi, puisqu'il leur arrive de couper des épisodes, ce que personnellement je n'aime pas du tout. Et par contre, évidemment, donc avec cette augmentation de pagination, une augmentation conséquente du prix, puisque le magazine passera de 5,90€ à 8,90€. Donc, le papier s'améliore également, la couverture donc s'améliore également, Et le réseau de distribution change puisqu'ils ne seront plus disponibles dans les kiosques et les maisons de la presse, mais uniquement en commerce, librairie et on va dire grande surface, etc. Donc c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit parce que l'augmentation donc de quand même 3€ du prix est assez importante. C'est un format, le format softcover, sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer par rapport au périodique Marvel. C'est un format un peu bâtard où on est plus dans un format kiosque, c'est-à-dire qui est relativement accessible en termes de prix, mais on n'est pas non plus dans un format librairie qui justifie un prix très élevé. Mmh. Ça reste une couverture souple, ça reste un regroupement d'épisodes VO, donc sur plusieurs séries. Donc là, le magazine va toujours accueillir la série Star Wars, la série Afra. La série Vador étant terminée, je ne sais pas quelle sera la troisième série qui sera au sommaire de du magazine. Par contre, je pense que vu la couverture du premier qui va paraître au mois de janvier, je pense qu'on peut s'en aller vers l'apparition de Target Vader au sein du magazine. Peut-être pour être collecté plus tard en librairie, mais en tout cas, la première...
Ben en fait, je te reprends sur le Target Vader, probablement après... si on suit à la couverture, c'est plutôt Dark Vision.
Ah oui, Dark Vision, exactement.
Qui va être comme la première, mais oui, logiquement...
Tu as bien fait de me reprendre.
Mais Dark Vision est sorti quand même il y a un certain temps en anglais. Là, ben, donc, j'imagine. Et puis, en fait, je suis même surpris qu'il n'y ait pas encore d'album dans le fond. Je pense que c'est terminé depuis le mois de juin, Dark Vision.
Ouais. Ben, je ne sais pas si Panini trouverait l'intérêt de publier cette série en VO, parce qu'elle est quand même en reliée librairie. Parce qu'elle est quand même assez particulière. Moi, je l'ai feuilletée en issue VO. Mm-hmm. Ouais, c'est un peu spécial quand même. Je sais pas si... Peut-être que le fait de l'avoir collectée dans un magazine avec d'autres séries à côté, c'est pas une mauvaise idée. Après, ils annonceront certainement dans l'année leur bonne librairie. Mm-hmm. Peut-être qu'on aura la surprise de découvrir cette série collectée aussi.
Ben moi j'espère qu'ils vont le faire en album parce que c'est uniquement ça que j'importe. Mais j'avais trouvé quand même très original cette série-là, même si très bizarre, ça je te l'accorde. Là. Donc j'ai quand même hâte de la revoir en français là, et que mes enfants puissent la découvrir.
Et bon moi ce qui m'a surtout choqué dans ce relaunch de chez Panini, c'est que je me demande, alors moi qui suis en plus un petit peu un déçu d'Afra également, je m'étais dit bah voilà ça y est, je pense que pour moi le magazine kiosque de Star Wars c'est terminé, je vais m'arrêter là au mois de décembre. Et puis après il y a eu les annonces, après l'annonce de Panini il y a eu les annonces des fins des séries dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Pour le relaunch à venir également. Donc en fait, j'ai tout simplement pris la décision de reprendre au numéro 1 ce relaunch, le temps que se finissent les séries qui sont en cours, comme Afra et Star Wars. Et puis, j'abandonne ce format, totalement, ce format kiosque. Je le laisserai de côté, et puis je vais vous rejoindre, toi et Thomas, sur les albums uniquement en librairie, y compris pour les séries principales, mais comme elles auront recommencé au numéro 1, je n'aurai pas la sensation d'avoir un trou dans ma collection ou d'avoir manqué quelque chose.
Mmh, logique.
Voilà. Donc voilà, c'est vrai que ça m'attriste un peu parce que je suis très attaché au format kiosque depuis 20 ans que je lis du comics, mais bon, voilà, il faut prendre des fois des décisions. Et puis, je ne le fais pas pour Spider-Man, je continue ce soft cover. Par contre, je vais le faire pour Star Wars parce que ça sera le bon moment. Je dépenserai encore 8,90€ pendant 3-4 mois le temps que les séries arrivent à leur coût plus.
J'imagine que c'est des décisions d'affaires là, pour des raisons commerciales. Je connais pas du tout la situation en France, évidemment. Ici au Québec, ça a jamais été distribué là, en kiosque, là, comme vous dites. Là. C'est l'augmentation du prix, faut dire qu'on l'a vu aussi chez les albums.
Ah oui, les albums, on en a parlé dans les précédentes émissions aussi. On en avait parlé, même en cours, parce que là, il y a un des volumes, je crois, qu'on va traiter ce soir dans une autre émission, où il y a déjà une augmentation de prix entre les héros et les vilains. Enfin, il y a vraiment eu des... Mm-hmm. Même sur les anthologies Panini, il y a une augmentation également, il y a une augmentation sur les Deluxe. Donc toute la gamme est impactée.
Et c'est sans parler, là on est du côté de Panini. On parle un peu moins sur Star Wars en direct de Delcourt, mais du côté de Delcourt, les augmentations étaient encore plus substantielles. Donc j'imagine que c'est une question de marché là, à ce moment-là.
Bah, nous, on a des bribes de réponse du côté de Panini, c'est qu'il y a eu un changement de distributeur, il y a eu des gros problèmes avec la faillite ou quasi faillite d'un distributeur. Donc ils ont dû revoir toute leur politique, ce qui a donné un changement dans l'offre commerciale. Maintenant, ils avaient fait ce changement déjà chez Marvel l'année dernière, et le magazine Star Wars n'avait pas été impacté à ce moment-là, et bon, moi je m'en suis réjoui à ce moment, à l'époque. Et bon, c'est un peu logique que le magazine rejoigne le même format que le reste de leur gamme.
Mmh.
Bon. Mais ça, voilà. Après, on est toujours sur un tarif plus avantageux que la VO, évidemment, mais je pense que ça va signer un peu à terme l'arrêt de mort de cette parution, parce que logiquement, les gens vont se tourner bien plus vers la librairie que vers son magazine. Mmh. Voilà. Maintenant, on verra bien. Et puis pour finir, avant d'attaquer nos reviews, on fait un petit côté, un petit détour par les États-Unis, puisqu'aujourd'hui a été annoncée la date de parution du premier roman de la nouvelle trilogie Throne, donc qui est préquel à la trilogie qui est déjà parue. Donc c'est Throne Ascendancy, donc le nom de cette trilogie, avec le premier volume donc qui s'appellera Chaos Rising, et qui va paraître aux États-Unis le 5 mai 2020. Alors je sais pas Francis, si toi tu es en attente, si tu as une attente par rapport à cette trilogie, moi pas du tout, je suis toujours bloqué dans le deuxième volet de la trilogie consacrée à Throne qui est déjà parue.
Ok.
Voilà, j'ai toujours pas avancé, donc je suis pas du tout, j'ai pas d'attente hein, par rapport à ce volet.
Ben, je te dirais que de persévérer, pour ce qui est de la trilogie actuelle, de persévérer déjà, le deuxième est le plus faible des trois. Et peut-être que ton intérêt pour cette nouvelle trilogie va croître à la lecture du troisième volume qui s'appelait Treason. J'imagine que ça va être Trahison en français.
Oui, oui certainement.
Parce que justement, on explore un peu plus les Chiss dans le troisième. Et là, cette fois-ci, cette nouvelle trilogie de Timothy Zahn se passe du côté des Chiss carrément. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'univers galactique qu'on connaît normalement. Donc, on est du côté des Chiss et avant le premier livre Throne. Donc, on pourrait dire pendant la guerre des clones ou avant. Fait que, moi, l'aspect de découvrir justement du nouveau, de l'inconnu, etc., ça m'intéresse beaucoup.
Ah oui, ça c'est vrai.
J'ai hâte de voir par contre comment il va réussir à garder certains codes, certains. Tu sais, pour qu'on reste dans du Star Wars.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on va vraiment partir. C'est ce que je demandais d'ailleurs en plus dans une précédente émission où tu avais lu mon commentaire, c'était pendant le bilan je crois.
Oui, le bilan des 5 ans Marvel là, ouais.
Voilà, et je t'avais transmis ce commentaire que moi, bah, effectivement j'avais envie de partir vers d'autres contrées et d'autres lieux, et tu fais bien de me le rappeler que c'est un peu ce qu'on va peut-être nous offrir avec cette trilogie.
Bon, en tout cas c'est ce qui est annoncé.
Il faudrait que je calme, voilà, et qu'il va falloir que je calme ma schizophrénie et que je découvre peut-être un peu d'entrain pour ça, voilà,
c'est ça, donc, mais évidemment, de toute façon, le troisième n'est pas encore sorti, là, Trahison en français. Alors, je crois qu'il est prévu pour quoi, mai ou juin, quelque part comme ça, ou juillet. Mais bref, tout ça pour dire que c'est quand même pas un mauvais. Je l'ai préféré au deuxième. Et si tu avais apprécié Throne dans la série Rebels, donc là, la quantité de
références
est extrême. Là, on est vraiment.
Oui. Oui, ça se passe en parallèle.
Oui, dans le fond, ça se passe pendant le petit arc, là, le peu de temps dans la série Rebels où est-ce que Throne s'absente et donne les commandes à la gouverneure Price. Donc, on a toutes les références là, et on embarque Krennic là-dedans beaucoup. Donc, le projet Nébuleuse au travers, alors que Throne lui s'y oppose là, avec son projet de chasseur.
Avec son projet de défenseur, ouais.
Ouais.
Le défenseur taille. Et est-ce que du coup, on peut prendre ce troisième volume sans avoir fini par exemple le second? C'est une bonne question, ça.
Je dirais que oui, les liens avec le second sont relativement faibles. Il y a plus de liens avec le premier. Dans le sens que, puis ça, c'est pas un gros spoiler de le dire, là, ça commence de même, puis c'était même dans les publicités, tout ça, c'est le retour de Elie Vento. Donc, qui était parti là, à la fin du premier.
Bah ça, c'est intéressant, tu vois, parce que peut-être que même si, effectivement, je suis vraiment bloqué sur ce livre, là, tu m'as donné un peu envie, avec ton petit résumé, de lire le troisième. Donc, si jamais j'ai toujours pas fini celui-là, quand le nouveau sortira, je passerai directement au troisième.
Oui, parce que le deuxième, on se cachera pas, on est sur 30 à 200%. Bon, évidemment, il y a Padmé, Anakin, puis Vader, là. Mais, tu sais, justement, dans le premier, une des choses qui faisait l'intérêt du livre, c'était justement la dualité des deux personnages qui doivent travailler ensemble. Et on découvrait beaucoup Thrawn à travers Elie Vento. Donc là, son retour dans le 3, il est très présent. Là, c'est pas un personnage secondaire. On est quand même peut-être au moins au... Je dirais peut-être le tiers du livre, là, on est dans sa tête. Là. Donc, c'est quand même intéressant.
Ouais, tout à fait.
Bref, c'est pour l'avenir de Thrawn, mais je pense que Timothy Zahn a quand même un bel avenir devant lui. On sait qu'il y avait des plans, puis je reprécise encore une fois, on a toujours tendance à parler de trilogie, hein, c'est un réflexe qu'on a dans le petit monde de Star Wars, mais ça n'a jamais été, comment dire, précisé au niveau par Timothy Zahn ou par Delroy, etc., que c'était une trilogie. Timothy Zahn a précisé qu'il y avait des plans pour un volume après. Donc, qu'est-ce qui se passait avec Ezra et Thrawn dans l'après-Rebels. Mais évidemment, ça, c'est, y a un embargo où on va dire qu'il y a besoin d'autorisation du côté de Lucasfilm. Mm. Mais c'est ça, donc on sait pas, peut-être qu'un jour on va avoir une suite, même à Thrawn Trahison.
Mm. Oui, tout à fait. Ouais. Ça serait intéressant, justement. À voir, peut-être que bon, il y aura beaucoup d'annonces, je pense, qui seront faites. Là, on va arriver dans l'après saga Skywalker. Mm-hmm. Il va falloir meubler en attendant les nouveaux films et entre les séries télé. Donc, je pense que on manquera pas d'annonces cette année qui vient.
Effectivement.
Bon, on va attaquer donc maintenant le gros de notre sujet, à savoir nos reviews. Donc, on va commencer avec l'adaptation de Solo. Par Robbie Thompson et Will Sliney au dessin. Alors, c'est un volume qui est paru déjà il y a un certain temps, mais c'est un gros volume. Et on va forcément le mettre en parallèle avec les précédentes adaptations. Je pense que tu me rejoindras peut-être, Francis. J'embraye tout de suite sur la critique parce que finalement, sur l'histoire, il y a très peu de choses à dire.
Ceux qui ont vu le film,
okay. Voilà. C'est une adaptation. À savoir que on est là dans le haut du panier de l'adaptation depuis le rachat par Disney. Et le 7, le 8, c'était une catastrophe. Moi, j'avais été extrêmement dur dans la notation avec eux et je les avais pourtant achetés par complétisme. Rogue One encore, ça pouvait passer. Là, on a une adaptation qui est fidèle. On a une adaptation qui est épaisse, où ils prennent le temps, où les choses sont bien développées.
Oui, on a été 7 numéros, on va préciser que
voilà.
Quand tu dis qu'il est plus gros, là, effectivement,
il est vraiment plus gros, et ça se voit tout de suite.
On avait eu 6 numéros, et ouais. On a même déjà eu un 5 numéros pour un film. Là, donc
c'est pour ridicule. Le réveil de la force, je crois.
C'est complètement ridicule. Même l'auteur s'était plaint, d'ailleurs.
En plus, ça prouve qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à raconter, et qu'on peut faire du remplissage. Là, on a vraiment le volume est conséquent. Il est appréciable dans l'ensemble. Les dessins sont corrects après ce qu'on a connu catastrophique. Je pense que le dessinateur aurait pu avoir un peu plus de temps pour peaufiner les choses, mais ça reste très correct. Et ce que j'ai surtout apprécié, c'était la retranscription des ambiances, c'est-à-dire les couleurs. Je trouve qu'on est vraiment dans les tons qu'on avait dans le film. C'est quand c'est un peu jaunâtre, quand c'est un peu sombre, c'est sombre. Ça dénote pas, y a pas de faute de goût à ce niveau-là.
Mm-hmm. Tu vois, moi je m'étais noté effectivement côté dessin que c'était parfois très joli, mais globalement que c'était pas complètement raté, comme justement par exemple le Réveil de la Force, mais c'était rien d'extraordinaire non plus. Donc,
non, on n'est pas.
C'était comme,
voilà. Pourtant, c'est un. Ah,
vous
c'est
avez
un
tendance
bon
à dire le minimum syndical en France, là. Donc, c'est.
Ouais, ouais.
c'était un petit peu ça. Par contre, pour ce qui est. Ma critique, elle visait surtout là, au niveau des personnages, des visages, etc. Par contre, sur tout ce qui est technologique, les machines, les équipements, etc., ça, j'ai trouvé que c'était très réussi.
Et ouais,
c'était
très
constant.
Réussi.
Le faucon, on le reconnaissait bien, les tailles. Et je vais mettre ce que je dis là, rappelez-vous-en en parallèle quand on va parler de l'album suivant. Parce que c'est complètement l'inverse.
Ah oui.
Donc,
ah oui.
Ici, j'ai trouvé le mouvement en vol. Tu sais, ça a de l'air. Ça peut sembler évident, mais retranscrire de l'action d'un film en case de bande dessinée. Donc, il y a un certain défi, et c'est pas tous qui réussissent à relever le défi, clairement. Cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était très bien réussi, quand même. Mais c'est ça, les visages et les yeux, les regards là, des personnages, des fois, j'en revenais pas que ce soit aussi raté, considérant que d'autres aspects, justement, sont très réussis.
Bah, là, je te rejoins pas, par exemple, c'est sur le... Je trouve qu'on enfin, les trois quarts du temps, on reconnaît très bien Alden et Ehrenreich. Et je le trouve vraiment, vraiment réussi. Enfin, c'est peut-être celui qui l'a peut-être le plus, il s'est le plus appliqué sur celui-ci.
Mm-hmm.
Mais voilà. En tout cas, sincèrement, c'est une adaptation sur la que je pourrais franchement feuilleter de manière très régulière, contrairement aux autres adaptations. Et rien que pour ça, je vais lui mettre un bon 14.
Tu vois, moi, je m'étais... Qu'est-ce que je m'étais noté aussi? C'est ça, les dessins, c'était un certain Will Sliney, que je connaissais pas. Par contre, je salue les couvertures de Phil Noto. Moi, je suis un gros, gros fan de Phil Noto. Je trouve que c'est magnifique, son style. C'est très artistique, mais très réussi. Et on reconnaît très bien, et c'est coloré, etc. Donc ça, c'était très réussi. Quand même, quelques petits plus à l'adaptation... Ben, un peu même chose pour l'adaptation. Romain, il y avait beaucoup de plus que dans le film. Donc, des scènes qu'il n'y avait pas dans le film, etc. Donc là, c'est pas autant le cas dans l'adaptation aux comics, mais quand même quelques petites scènes coupées. Par exemple, je m'étais noté la vente de Kira des verres blancs à l'Aube écarlate. Tu sais, dans le film, on le sait pas. Qu'est-ce qui se passe, là?
Non, c'est juste sous-entendu qu'il s'est passé quelque chose depuis qu'elle est partie de chez les verres blancs.
C'est ça. Est-ce que tu avais lu l'adaptation en livre?
Je suis en... Ah, l'adaptation, non. Je l'ai pas lu, je l'ai pas trouvé. Je voulais l'apprendre, je l'ai pas trouvé. Je suis en train de lire Mort ou Vif, actuellement.
Ok. Ah, excellent, excellent. Mais c'est ça, bref. C'est quelque chose qu'on avait dans le livre. Donc, Kira qui doit apprendre à tuer, justement, puis des choses comme ça. Ses débuts avec Dryden Vos, son entraînement, tout ça. Et on a aussi, ça c'était une scène coupée, là, mais plus humoristique, c'est quand il y a un éclair qui frappe le faucon dans le Maelstrom. Là.
Oui.
Et là, t'as Chewbacca en boule de.
Ils ont tous les cheveux hirsutes, et forcément Chewbacca, lui, c'est tous les poils hirsutes. Voilà, c'est assez drôle, et je suis content qu'il l'ait coupé du film. Parce que je pense que ça aurait été bizarre.
C'était un peu trop dans le film. Là.
Ouais, ouais, ouais. Parce qu'autant en dessin, c'est facile. Enfin.
Mmh,
bah oui. On arrive à se le représenter, c'est rigolo, mais j'arrive pas à me le représenter en version live.
Mmh. Ouais, puis je m'étais noté aussi une page complète sur les aventures de Anne entre la fin du film et la scène finale où il retrouve Lando, là, puis il joue au poker, au sabac,
oui, oui.
Pour gagner le faucon. Donc, dans le film, c'est instantané. Mais c'est ça, là, on a une pleine page de petits extraits d'aventures entre Anne et Chewie. J'ai trouvé ça le fun.
Bah, je trouve que quand la scène commence dans le film, on sent qu'il s'est passé un peu de temps. Enfin, ça, c'était mon impression quand j'ai vu le film. Donc, il y a eu des petites aventures. Voilà, là, nous les montre en petites vignettes, quoi.
Mm-hmm. Ben, c'est ça, c'est exactement ce genre de choses qui se fait bien en comics, justement, ça aurait été n'importe quoi à l'écran, là. Ça aurait eu l'air d'un vidéoclip inséré dans le film. Donc, mais c'est ça. Fait que, bref, comparativement aux trois autres adaptations, comme on disait tantôt, j'ai quand même trouvé que c'était la meilleure. Je suis d'accord avec toi. Peut-être devant Rogue One, que j'avais quand même apprécié aussi. Mais c'est ça, pas un mauvais divertissement. Évidemment que c'est du déjà vu, c'est une adaptation. Donc là, les gens, quand ils l'achètent, ils s'attendent quand même à une adaptation. Là, pas. C'est ça, l'intérêt, c'est pour les complétistes, dans le fond, et peut-être pour les jeunes lecteurs. Fait que ça, cet aspect-là, je trouve que pour donner en cadeau à un plus jeune, pour lui faire découvrir le monde des comics, etc.
Bon, ben, je trouve aussi que ce qui peut être sympa, justement, même si on a un peu apprécié le film, c'est et qu'on n'a pas le temps, par exemple, comme moi, voilà, je n'ai pas du tout le temps de revisionner les films ces dernières années. Ben, ça me permet, voilà, de replonger un petit peu, voilà, je regarde, ou s'il y a un élément, si ça se réfère dans une autre œuvre au film, mais que je ne peux plus le regarder, que je veux vérifier l'info, on peut reprendre l'adaptation. Elle est quand même vraiment bien complète. Et on peut s'y référer.
Et je l'ai dit tantôt, mais je salue encore une fois, on est rendu à 7 numéros pour une adaptation de film. Donc c'est quelque chose que je trouve très bien, parce que l'air de rien, ça prend du volume. Tu sais, je veux dire, c'était un film, là. Un peu comme quand il avait adapté Tron, ça aurait peut-être pris un numéro supplémentaire. Donc le fait que là, il ait donné 7 numéros pour adapter Solo, je trouve que c'est une très bonne chose. Fait que pour tout ça, je lui donne un 12 sur 20. Donc un 60%, c'est pas c'est relativement faible. C'est peut-être mes attentes qui étaient un peu grandes, justement, après celle de Rogue One. Peut-être aussi parce que j'ai lu le livre et que j'aurais aimé en avoir plus, tu sais, d'extra. Oui,
peut-être.
Mais c'est ça, moi, c'est le gros des points perdus, je dirais, c'est sur les dessins, comme je disais tantôt, là. L'inconsistance au niveau des visages, c'est vraiment le point faible de ce dessinateur-là, en tout cas dans cet album-là. Ça m'a complètement sorti des fois, là, t'sais, de l'immersion dans l'histoire.
Ouais, je vois. Ouais. Bon, bah, on va enchaîner sur notre deuxième volume, et puis on va rester dans la thématique Solo, avec l'album Solo, donc Cadet Impérial, la mini-série par Robbie Thompson et dessiné par Leonard Kirk. Alors Francis, est-ce que tu peux nous résumer cette mini-série et puis nous donner ton impression?
Côté résumé, écoutez, ça vient remplir le trou qu'il y a dans le film et dans le livre aussi en bonne partie. Au moment où Anne s'inscrit pour l'Académie impériale, et dans le film, c'est instantané, il se retrouve sur un champ de bataille en tant que fantassin d'infanterie. Donc, il y a des raisons à cela, et tout ça, c'est un peu décrit dans le livre. Et là, par contre, dans la BD Cadet Impérial, on est dans du 100% neuf, on va dire, une nouvelle histoire, qui n'avait pas du tout ni dans les scènes coupées, ni dans le livre, etc. C'est Anne qui s'entraîne à devenir pilote de taille, mais qui se rend assez vite compte que la discipline militaire, c'est pas du tout faite pour lui. Et qui vient assez vite à la conclusion qu'il doit se pousser de là pour aller retrouver Kira sur Corellia. Donc, il va mettre toutes sortes de plans là, en action.
Ben, il va s'en remettre encore un peu au jeu, encore une fois, pour essayer d'engranger un petit peu d'argent pour se sauver, quoi. On sent déjà qu'il est...
Le côté malin, planification d'une opération là, ouais.
Ouais, voilà, un peu le vaurien qui essaye de sortir de toutes les situations, donc du coup qui a fait un plan, qui va capoter ou qui va se compliquer.
Ouais, et puis il y a le côté de Anne qui justement va faire ce qu'il y a de bien au final. Évidemment, quand tu es dans une académie impériale, les occasions sont un peu plus limitées. Mais au fil des missions puis des aventures qu'il va vivre comme cadet, il va se retrouver dans une situation justement où il va sacrifier son plan d'évasion justement là, donner l'occasion à quelqu'un d'autre de le faire à sa place. Donc t'as le Anne un peu qu'on retrouve dans le livre que t'es en train de lire justement, Most Wanted, là, au vif. Donc le Anne un petit peu moins désabusé que celui qu'on a connu dans la trilogie originale.
Ah ben il est encore, on peut dire presque qu'il a encore des convictions et qu'il sait ce qu'il veut faire et où il veut aller, quoi.
Donc c'est ça, mais bref, vous doutez là, vu le film, que ça va mal se terminer pour lui. Bon, tout ça pour dire, d'un point de vue critique, je vais commencer par les couvertures, encore une fois, on va éclairer ça. J'ai trouvé que c'était, encore une fois, magnifique cette fois-ci. Ouais. C'est un David Nakayama qui signe ça. Donc, il y a un très bon choix aussi de couverture pour l'album de la part de Panini. Donc, on voit Anne à une table de jeu style Las Vegas, là, en train de jeter les dés. J'ai trouvé ça tout simplement magnifique. Donc, même s'il y en aurait eu d'autres, là...
Moi, ouais, j'aurais pas choisi celle-là, mais...
Non, ben tu vois, moi, celle qui a au revers de l'album, je la trouve tellement belle aussi, et c'était le premier numéro. Et quand ça a été annoncé, tu sais, quelques mois avant le début de l'apparition, je me souviens avoir dit dans une autre émission, mais écoutez, avec une couverture de même, ça peut juste être excellent. On a Anne qui se fait engueuler par son supérieur, en tout cas par un supérieur, devant un taille en feu, là, craché. Et le petit sourire de Anne là,
qui s'en fout.
Oui, qui s'en fout complètement. Donc, qui est habitué. Là, bref, c'est. Moi, ça aussi, je l'avais mentionné sur d'autres œuvres qui traitent de Han Solo. Je sais plus, peut-être pour le livre. Mais moi, j'ai toujours des petits rappels de mon passage personnel dans l'armée aussi. où j'avais un petit peu l'attitude justement d'Han Solo à l'époque, j'étais quand même pas mal plus jeune, donc quelques problèmes de discipline justement.
Ouais, c'est marrant, du coup tu peux t'identifier facilement à ce personnage quoi.
Ouais, exactement, c'est ça. Normalement je m'identifie moins à Han Solo, mais sur son passage dans l'armée impériale, ça je je m'y reconnais vraiment.
Ouais, c'est pas mal.
Mais bref, pour revenir à la critique, j'ai parlé des couvertures. Pour le reste des graphiques, j'ai trouvé que c'était pas affreux, c'était pas laid, mais c'était inconstant, surtout au niveau technologique. Donc l'inverse de ce que je disais pour l'autre album. Cette fois-ci, on a des chasseurs-tailles qui ressemblent pas à des chasseurs-tailles. Donc on dirait que vraiment l'attention est toujours mise sur ce qu'il y a au premier plan, mais que le reste, bon, c'est pas grave, on dessine ça vite, puis on passe à la page suivante. Je ne comprends pas comment tu peux... C'est peut-être moi qui ai justement une personnalité trop perfectionniste et compagnie. Ça m'échappe comment tu peux livrer un travail comme ça, tu sais. Je veux dire, un taille, là, c'est des lignes droites. Je veux dire, c'est un hexagone de lignes droites.
C'est la perspective. C'est dans la perspective que ça se joue, et c'est pour ça qu'on a... Moi, je trouve qu'on a retrouvé un peu ce qu'on avait au début de l'ancien canon légende. On avait beaucoup ça, en fait, cette espèce de TIE Fighter qui ressemble un peu au TIE Fighter de Kenner des années 80, où il est un peu trop large, un peu trop écarté, avec des ailes trop courtes, un peu lourdeau, quoi.
Un peu ce qu'ils ont fait dans Rebels.
Exactement, un peu ce qui ressemble à Rebels. Et je pense qu'en fait, la difficulté vient... pour gérer la perspective et donner à tout ça un aspect élancé en utilisant le reste de la page. Enfin, ça doit être extrêmement difficile, comme tu disais tout à l'heure. C'est pas évident de réussir à retranscrire des scènes d'un film, mais encore plus difficile de réutiliser des éléments d'un film pour les inscrire dans une scène que tu n'as jamais vue, mais où il va falloir que tu essaies de redonner une dynamique. Et je trouve que, parallèlement à ça, alors, je trouve qu'il s'en sort bien sur l'aspect dynamique, et qu'on le ressent pas mal à la lecture des épisodes, notamment la scène de fin, quand ils attaquent et tout, quand ils sont sur la planète. C'est bien dynamique. Je trouve que voilà, on ressent bien, moi je ressens bien la bataille, je ressens bien l'urgence, etc.
Ouais, effectivement, on sent que c'est ça. On est pour préciser pour ceux qui l'avaient pas lu, on est vraiment dans une zone de guerre, de conflit direct. Il va même avoir un bombardement là, par des TIE bombers. Puis nos héros évidemment sont au travers de ça. Mais comme tu dis, effectivement, ça c'était bien réussi cette finale là. Justement, c'est ça pour rester dans l'histoire. Personnellement, j'ai bien aimé le début, le petit rappel au livre que tu es en train de lire, justement, Most Wanted, Mort ou Vif. Donc, c'est d'ailleurs, les deux étaient sortis pratiquement en même temps là, à l'époque. Mais, tu sais, les petites aventures avec Kira. Donc, je sais plus si c'est une page ou combien, là, mais on a un petit rappel de ce côté-là. Je m'étais noté qu'on a...
Je l'ai lu bien avant. Du coup, comme je suis seulement en train de lire Mort ou Vif, Du coup, j'ai
pas fait attention. Ouais.
Non, il faudrait que je relise l'album éventuellement pour voir si ça me parle.
Ben c'est tu vois, je l'ai dans les mains. C'est justement Anne qui vole une mallette, on va dire, là, puis qui se pousse avec Kira. Dans le fond, je pense que c'est qui espère que c'est son billet de sortie pour de sortie de Corellia. Et il y a toute une course-poursuite là. C'est ça. Il essaye de un peu comme il va finir par faire avec le Coaxium, puis là il se fait discipliner par Lady Proxima, etc. Mais c'est pas quelque chose qu'il y a dans le livre que tu lis là. C'est plus une espèce d'entre-deux entre le livre que tu lis et le film ou le livre là, sur...
Ok.
Mais c'est ça, à la fin il y a le petit tube, si on peut appeler ça le flacon là, de Coaxium. Donc j'ai quand même bien aimé de ce côté-là. On a un solo quand même, j'ai trouvé très fidèle à la version du film ou du roman. Donc comme je disais tantôt, indiscipliné mais moins égoïste que le Han Solo là, de la trilogie originale. Il est fidèle à son obsession là, de retourner sur Corellia, quasiment même trop là, dans le sens, à un moment donné tu te dis élabore un plan, là, arrête de juste voler un taille et de pousser là.
Ben, surtout que si on se réfère un peu aux dictatures qu'on a connues nous sur Terre, mais puisqu'elles sont basées un peu sur le même principe, je pense que ses coéquipiers devraient bien plus le dénoncer que ça aux supérieurs, et que du coup ben, les sanctions en toute logique devraient être beaucoup plus intenses que ce qu'il connaît là, quoi.
Oui, ben effectivement, je m'étais noté ça justement, qu'il cause la destruction et de plusieurs autres tailles qu'il poursuivent. Et donc la mort de plusieurs autres pilotes, mais ça lui est comme pas vraiment reproché en tout cas ce qu'on a dans l'album, évidemment.
C'est un peu dommage, quoi, je trouve.
Ben, c'est ça, je comprends, mais là, tu sais, il lui pardonne beaucoup de choses parce que c'est vraiment un pilote exceptionnel, puis ça, ils lui reconnaissent. Mais tu sais, un moment donné, quand tu causes la mort de plusieurs autres coéquipiers, là, c'est parce qu'il y a des limites.
Ben, c'est ça. Ben, surtout si ça arrive, voilà, si ça arrive et que ça arrive et que ça arrive, ça se reproduit. Il aurait dû finir, ouais, il aurait dû finir. Ou alors, dans ce cas-là, dans l'histoire, peut-être prendre des événements un peu moins impactants pour garder un semblant de cohérence.
Ben, t'étais pas obligé de faire exploser les tailles, tu sais, c'est ça.
Ben, c'est ça.
Quelque part.
Qu'ils se détruisent, qu'ils se crachent et que les pilotes éventuellement même blessés, comme là on le voit, mais pas forcément morts.
Non, c'est ça. Mais bref, c'est des petits. Ce serait au niveau scénaristique le plus qu'au niveau graphique. Au niveau scénaristique aussi, je m'étais noté, à la fin, il y a un retournement. C'est comme la surprise à la fin que je m'attendais pas, et peut-être parce que ça arrive vraiment instantané. Donc, c'est une des cadets là, qui est quand même toujours la ultra disciplinée. Et droite, si on peut dire, qui là, pour une raison légitime, décide de complètement revirer sa veste, si on peut dire, là, et de quitter l'Empire. Donc ça, j'ai trouvé que c'était instantané, qu'on le voyait pas venir, que c'était pas construit, tu sais, au fil de l'histoire. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Par contre, Robbie Thompson, il y a quand même d'autres éléments très intéressants. Déjà, je sais pas si toi tu connaissais le personnage légende avant, mais c'est l'introduction de Valance.
Non, tu le mentionnais tout à l'heure via Target Vader, je crois.
Ouais, exactement, c'est ça. C'est Valance, c'était dans les légendes, c'était un chasseur de primes, un ex-impérial. Et là, dans le fond, il est introduit dans cet album-là.
Ah oui.
Personnage, justement, c'est un super soldat, si on peut dire, tu sais, un excellent, celui qui a les meilleurs résultats tout le temps là, à l'académie, tout ça. Et bref, c'est ça, par après, là, il lui arrive toutes sortes de choses qui fait qu'il va devenir mi-cyborg, là, un peu à la Darth Vader, mais en moins costume.
En moins drastique. Ouais.
Mais personnage tellement intéressant qu'il y a maintenant, c'est ça, sa propre série. Target Vader, et que je vous conseille, que j'ai quand même bien aimé.
J'ai pas fait le lien à la lecture de l'album que c'était qu'il s'agissait du même personnage.
Non, moi non plus. Au début, il est juste mentionné. Puis, c'est ça, dans les légendes, il y avait vraiment la moitié du visage en robot Terminator avant le temps. Et, parce que c'est plus ancien, si je me trompe pas. Mais là, cette fois-ci, c'est ça, c'est vraiment avant. Donc, c'est pas un personnage qui m'avait marqué, là, mais c'est par après que j'ai allumé avec la série Target Vader. Idem pour les deux frères jumeaux qui sont dans cet album-là. Il y a deux cadets jumeaux avec le crâne rasé puis des gros tatouages en pointe de l'arrière vers l'avant, qui reviennent dans la série dont on parlait tantôt, qui sort en février, TIE Fighter.
TIE Fighter.
Ouais, donc on les revoit dans TIE Fighter. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant, justement, que j'aurais pas cru, quand il est sorti Cadet Impérial en VO là, l'année dernière, qu'il y aurait autant de stocks construits par-dessus cette BD-là par après.
C'est bien aussi qu'on ait des personnages qui sont introduits dans une série et puis qu'on puisse les retrouver ailleurs, parce que on a assez reproché ça au nouvel univers canon. Et voilà, ben, si même si ce ne sont pas des personnages principaux, même si ce ne sont pas des personnages essentiels à une histoire, ben, au moins l'effort est fait.
Oui, exactement. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être les personnages principaux, c'est ça. C'est le concept du fanservice là, ou puis de l'easter egg, c'est justement, ça vient juste nous récompenser ceux qui le voient. Ça enlève rien à ceux qui le voient pas. Là. Ceux qui n'ont pas réalisé que Chopper était dans Rogue One, ils s'en foutent, ça change rien à leur vie. Mais pour ceux qui avaient pris la série Rebels, c'est le clin d'œil,
c'est ça.
La petite récompense.
C'est ça.
Mais donc c'est ça, bref, je trouve que c'est une série que plusieurs personnes vont avoir passé complètement par-dessus pour plein de raisons, que par exemple c'était sur Solo ou un simple dérivé du film Solo, etc. Mais au final, on va retrouver des éléments là, ailleurs par après. Et tu vois, j'ai l'album en main puis je revois la couverture justement là, dans une espèce de casino. Et tout ce numéro-là, là, le plan de Anne... Et tous les événements qui se passent dans ce casino-là, j'ai trouvé ça excellent, vraiment. Là. C'est puis tu sais, qu'au final, en plus, ils fassent tout ça, encore une fois, non pas pour s'amuser comme on pourrait le croire, comme ce que lui aime à laisser croire aux gens, là, comme quoi que c'est quelqu'un d'insouciant, etc. Mais en réalité, il fait tout ça pour pouvoir rejoindre Kira, encore une fois. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même très très le fun. Donc au global, je dirais que c'est pas mauvais, c'est vraiment un bon petit divertissement. Moi je pense que les fans de Han Solo devraient bien l'aimer, devraient retrouver leur personnage. Puis les gens qui ont aimé le film, je trouve que c'est ça fait un bon complément au film. Donc c'est rien d'extraordinaire non plus, c'est rien d'absolument essentiel, mais je pense pas que ce soit le but d'être un essentiel. L'objectif était d'être un complément, puis c'est réussi. Donc pour ça, moi, j'y donnais un 70%, donc un 14 sur 20.
Et quant à moi, du coup, je me suis un peu surpris à me laisser entraîner par la lecture de ce volume, parce que, comme tu le dis, même si les événements qui se passent ne sont pas essentiels, je les ai trouvés bien racontés. Je me suis quand même un peu mélangé dans les personnages. On sent que c'est pas des personnages auxquels on va s'attacher forcément, hormis Anne évidemment, mais du coup j'avais du mal des fois à les replacer. Le dessin n'aide pas parce qu'ils sont tous dessinés pas mal de la même façon pour les personnages humains. Du coup j'avais du mal à les replacer des fois, donc c'était un peu flou. Mais bon, au final, ça reste relativement anecdotique. C'est pas la lecture de l'année, même si elle est très très sympa. Et du coup, moi, alors je sais plus, je crois que je t'avais donné ma note, mais on va voir si je suis cohérent avec moi-même. Moi je lui donnerais un 12 ou un 13, parce que finalement ça reste une histoire agréable, et que dans tout ce canon on n'a pas souvent quand même une histoire agréable à lire, sympathique à l'œil, et voilà, qui se prennent pas la tête et qui soient un peu sans prétention, et ça fait un peu du bien aussi, quoi. Donc voilà, moi je dirais, allez, 12 sur 20. Pour ma part. Donc voilà, ce qui conclut cette édition de Star Wars en direct, édition littérature. Merci à Francis d'avoir partagé ce moment avec moi. Francis, comment on peut te rejoindre si on cherche à te parler sur Internet?
Oui, effectivement, commentaires, questions ou insultes, ça me dérange pas du tout. évidemment, le groupe Facebook et tout ce qui est commentaires des épisodes, je me fais un devoir d'aller lire ça et de vous répondre. Donc, vous pouvez me rejoindre. Sinon, il y a les Instagram et compagnie. J'ai pas de Twitter, par contre. Donc, c'est ça. Facebook, YouTube, à la limite Instagram.
Et puis, ben, comme toujours, si vous avez, comme Francis l'a dit, des suggestions, des commentaires, des réactions, des insultes sur les sujets qu'on vient de discuter, contactez-nous donc à l'adresse studio@starwarsdirect.com ou laissez votre message sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à partager nos épisodes afin que le maximum de vos amis puissent profiter de tous ces bons mots. Alors, je vais me garder d'annoncer des émissions parce que j'ai peur qu'elles soient déjà passer quand cette émission sera enfin montée et parue. Par contre, vous pouvez toujours nous rejoindre avec nos autres fans et autres auditeurs pour participer à nos enregistrements live. Donc, encore une fois, rejoignez notre serveur Discord et montrez vos couleurs. Dirigez-vous vers la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts et des produits dérivés à l'adresse starwars.direct/boutique. Et puis, on vous rappelle qu'on est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. Et on remercie une dernière fois nos partenaires, siteclan.net, mintingbox.net, starwarsthelonet.com, starwarsuniverse.com, starwars.com, starwarsgeeks Québec, le Space Trash Show, les générations Star Wars et science-fiction. Donc de la part de Francis et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.